Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est une demi-heure où nous allons parler cinéma, alors avec des chroniques de films et aussi eh bien, un jeu, c'est le jeu du blind test. La semaine dernière, nous avons parlé de Asteroid City, le dernier long métrage de Wes Anderson, et on n'a pas eu l'occasion de jouer à un blind test avec sa filmographie parce qu'on a préféré eh bien, écouter ce qu'il a dit lors de la conférence de presse du Festival de Cannes, et donc on se rattrape cette semaine donc avec 5 extraits des 11 films qu'il a déjà tournés. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez chacun un film. On commence peut-être par un film d'un Américain, tiens.
D'un Américain qui tourne en France et qui s'appelle Passage, film de Ira Sachs.
C'est un Américain à Paris alors.
C'est ça Guillaume. Et toi tu as un film d'animation?
Oui, c'est Chonchon, un film de Marsha Halberstadt.
Mais nous commençons cette émission avec Maddy, qui a un défi pour l'été. Si elle ne veut pas se retrouver sans toi, c'est aider un garçon introverti de 19 ans à se décoincer. C'est le challenge, et c'est Marine qui nous en parle.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Salut, je peux toucher ta saucisse?
Quoi?
Ton chien.
Maddy, une jeune trentenaire de Long Island, désespère de pouvoir sauver la maison de ses parents. Elle qui est chauffeuse de Uber n'a plus de voiture, donc plus d'outils de travail. Elle est prête à tout pour régler ses problèmes financiers, même à répondre à une intrigante offre d'emploi. Un couple lui propose de décoincer, comprenez, dépuceler, leur fils Percy de 19 ans avant qu'il n'arrive à la fac. Maddy, interprétée par Jennifer Lawrence, se lance donc dans cet étrange challenge.
Gary !
Ordonnance de saisie de biens.
Ils prennent ma voiture !
Il fallait pas me ghoster.
Et c'est ça le problème. Hier soir encore, je me disais, il me manque cet enfoiré.
C'est vrai ça ?
Buongiorno !
C'est mon cousin ! Je te le jure, c'est mon cousin ! C'est mon cousin éloigné !
Ça tourne vraiment pas rond chez toi.
Je suis conductrice Uber et j'ai pas de voiture. Je vais perdre ma maison.
Regarde ça.
Besoin d'une voiture, sortez avec notre fils pendant l'été pour qu'il s'épanouisse avant d'entrer à la fac et nous vous donnerons une voiture. Sortez est entre guillemets. C'est forcément une blague.
Vu comme les parents sont impliqués, ça m'étonne qu'ils le dépucellent pas eux-mêmes.
Jennifer Lawrence, c'est un peu l'inverse de Virginie Efira, puisque l'actrice américaine a débuté sa carrière au cinéma dans des drames d'auteur pour ensuite évoluer vers des comédies grand public. Et en même temps, pourquoi pas, Jennifer Lawrence peut se permettre une comédie potache quand à 32 ans, elle a déjà plus de 15 ans de carrière derrière elle. En effet, à moins de 18 ans, elle reçoit ses premiers prix d'interprétation en jouant des rôles d'adolescente au vécu compliqué. Après avoir joué dans diverses séries télé, le cinéma indé lui tend les bras. Garden Party, The Poker House, puis Loin de la Terre Brûlée de Guillermo Arriaga, qui la couronne déjà en 2008 à la Mostra de Venise. Bref, quand sort le film Winter's Bone de Debra Granik, Jennifer Lawrence en est déjà à son 5e film, et c'est alors qu'elle est choisie pour les très attendues sagas Hunger Games, X-Men, qui en feront la star que l'on connaît. Que manquait-il alors à Jennifer Lawrence? Oh, et bien quelques Oscars peut-être, ce sera chose faite grâce aux comédies de David O. Russell, que personnellement je trouve assez désagréable, mais bon, Happiness Therapy et American Bluff. Je ne dresserai pas la liste exhaustive des récompenses reçues par Jennifer Lawrence, car dites-vous que la jeune femme a carrément une page Wikipédia dédiée à tous ces prix, qui se comptent par dizaines. Jennifer Lawrence est donc ce qu'on appelle une actrice bankable, et le challenge repose intégralement sur ses épaules.
Maddy,
on est très inquiet pour notre fils. Vous devrez apprendre à le connaître, pas juste sortir avec lui.
Mais aussi sortir avec lui et aller plus loin.
J'irai carrément loin. Ça te dirait que je te dépose chez toi?
C'est pas du tout le bon chemin.
C'est un raccourci. Ouh, qu'est-ce que tu vas me sortir?
À quoi constate-t-on que nous sommes dans l'ère post-MeToo? Eh bien déjà, les distributeurs français n'ont pas renommé le film avec un titre qui contient le mot « sexe ». En effet, le film s'appelle « No Hard Feelings » en VO, que l'on pourrait traduire par « sans rancune ». Et il s'est donc vu renommer « Le Challenge ». Pourtant, les distributeurs français n'ont eu aucun souci pendant des années à inventer à des films au titre anglophone d'autres titres en anglais plus accrocheurs. Par exemple, le film « No Strings Attached » avec Nathalie Portman était devenu, dans les salles françaises, « Sex Friends ». Mais au-delà du simple titre français, eh bien cette comédie, qui pourtant n'ambitionne pas de révolutionner le genre, a le bon goût de proposer quelques éléments novateurs, voire même de faire une proposition plutôt moderne, en renonçant, par exemple, à être une comédie romantique. En effet, les deux personnages ne vont pas tomber amoureux comme on pourrait se l'imaginer, mais ils vont développer une belle amitié et s'entraider. Et puis, le film surtout exploite l'immense potentiel comique de Jennifer Lawrence, qui est la caution humoristique du film, et non pas la simple caution sexy.
T'en es où avec ton petit jeune ?
On sort ce soir. Il va prendre un Long Island Iced Tea.
J'ai le droit d'être ici ?
Arrête d'avoir peur de tout.
J'ai jamais bu un Iced Tea aussi dégoûtant. One thing about me,
I'm the baddest alive. Pour l'instant, ce gamin est imbaisable.
Il est sûrement stressé. Décoince-le.
On se fait un bain de minuit.
Et les requins ?
Il n'y en a pas ici.
Et les méduses ?
Pas la saison.
Et quand il n'y a pas de maître nageur, il faut éviter...
Tu vas ramener ton cul, oui ou non ?
Ok.
Il faut savoir que Jennifer Lawrence est connue, du moins au regard du public américain, pour avoir une personnalité assez comique qu'elle assume totalement. Chute inopinée sur la scène des Oscars, déclaration très spontanée, qui détonne dans un univers promotionnel hollywoodien où tout est calibré, amour de l'alcool festif revendiqué, qui se remarque parfois un petit peu lors de ses apparitions dans les médias. Bref, Jennifer Lawrence est aussi bien une égérie de marque de luxe qu'une comédienne au comportement rafraîchissant dans une industrie encore misogyne où seules les femmes grosses, ayant un physique moyen au regard des standards de beauté ou ayant dépassé un certain âge, ont le droit normalement de faire des blagues ou des gaffes. Et jusque-là, Jennifer Lawrence, même dans les comédies auxquelles elle avait participé, n'avait pas de rôle aussi drôle que ses partenaires de jeu masculins. Dans le challenge, on lui permet de laisser libre cours enfin à son potentiel comique et même burlesque, puisque la plupart des gags reposent sur le manque de gestion de son propre corps et sur sa maladresse. Si la réalisation ne vole pas haut, en même temps la mise en scène dans les films de Judd Apatow, qui sont clairement des références ici, n'est pas non plus très inspirée, on apprécie l'énergie, le rythme, qui clairement doit beaucoup à son interprète, par ailleurs également productrice du film. Vous ne connaissez sans doute pas le nom du réalisateur du Challenge, Jen Stupnitsky, mais vous connaissez sans doute sa plume. Le réalisateur ukrainien de naissance faisait partie du pôle d'auteurs de la célèbre série grinçante The Office, créée par Ricky Gervais. Avec le Challenge, il tente de remettre la comédie américaine sur grand écran, elle qui, depuis l'avènement des plateformes, se contentait de la petite lucarne. On aurait aimé que le film reste sur le ton grinçant de son début plutôt que de dériver vers une morale sur l'émancipation et sur le passage à l'âge adulte. Mais le challenge reste une comédie plutôt agréable et plutôt enlevée.
Le challenge est en salle depuis le 21 juin. Son Franky m'avait passablement déplu, manquant singulièrement d'audace et de surprise. Nous parlons maintenant de Passage de Ira Sachs.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Par un déroutant effet de déplacement temporel, tout le début de Passage rappelle le cinéma d'Éric Rohmer. Alors période années 80, ce marivaudage élégant et distancié, faussement léger, mais qui ici se confronte à des limites embarrassantes. L'atmosphère branchée et poétique des Nuits de la Pleine Lune trouve un écho agaçant dans Passage, pastiche involontaire d'un cinéma que l'on pourrait qualifier, alors faute de mieux, de bobo, où les personnages parlant français et anglais sans difficulté vivent dans des appartements immenses à défaut d'être luxueux. Alors le couple gay possède même une charmante résidence secondaire à la campagne. Alors que dire de cette vision, on va dire un petit peu hors sol d'une réalité à peine esquissée en la présence d'Agathe, enseignante en primaire. Alors soyons indulgents, elle est peut-être imputable, alors selon le degré de naïveté accordé, à la nationalité du cinéaste expatrié, l'américain Ira Sachs, qui après Franky continue de fantasmer, alors je dirais sur un certain cinéma français un peu embourgeoisé. Alors Passage à tous les apparats du simulacre du film d'auteur à la française. Passer ce problème, que vaut vraiment le film ? Avouons-le, sans être passionnante, cette fausse tragicomédie du remariage revêt un certain nombre de qualités. Alors certes, elle déçoit après Love is Strange et surtout le magnifique Brooklyn Village, du même Ira Sachs. Le titre emprunte au film dans le film, celui tourné par le réalisateur et protagoniste principal, Thomas, dans le prologue. Faire de Thomas un cinéaste n'est pas un hasard. Il ne cesse de mettre en scène sa vie, de tirer les ficelles dans ses interactions avec les autres. Cet aspect un peu métaphorique n'est pas des plus subtils, mais permet de cerner le caractère du personnage. Il vit avec Martin, qui travaille dans une entreprise de sérigraphie. Un soir, dans une boîte de nuit, après le dernier clap du film, Thomas, déçu du comportement de Martin, qui n'a pas le cœur à s'amuser, danse avec Agathe. Thomas et Agathe commencent une idylle chaotique remise en cause par l'égoïsme de Thomas, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, passant de deux situations amoureuses sans se préoccuper des conséquences de la souffrance que cela peut générer.
Pourquoi dit-on toujours que l'amour, que l'amour, que l'amour?
I had sex with a woman.
C'est un...
I felt something I hadn't felt in a very long time. And
I wanted to hear this.
Mon âme, mon âme, dans la foule qui me traîne, embrasse-moi avant que ça me tue. Nous danserons plus ensemble.
You're going back to him?
I thought that you were in love.
I'm confused.
Dans ce vaudeville détaché et intello, le triangle amoureux ne rejoue pas la partition légère d'un Jules et Jim ou même la douce moralité des chansons d'amour de Christophe Honoré. Il s'agit d'une étude de cas, celle de Thomas, sorte d'ado capricieux, incapable d'aimer naturellement sans tirer la couverture à soi. Est-ce pour autant un grand manipulateur, une de ces figures toxiques qui inondent le cinéma contemporain ? Pas vraiment. Déjà, reconnaissons à Ira Sachs l'audace de dresser le portrait d'un queer problématique avec son entourage sans être totalement antipathique. Une ambiguïté persiste. Un pervers narcissique l'est par nature ou par construction, du moins il l'est sur le long terme. Or, dans Passage, Thomas et Marc forment ou formaient, jusqu'à l'arrivée d'Agathe, qui, rappelons-le, se débarrasse quand même sans ménagement de son petit copain du moment, un couple, alors marié on ne sait pas trop, stable depuis plus de 15 ans. L'attitude de Thomas pourrait se traduire par une folie passagère, un caprice temporaire, bref, ce n'est pas vraiment explicité. Ce qui en fait quelqu'un d'à la fois attachant et détestable, un transi amoureux recherchant le consentement des proches à qui il fait du mal. À une époque pas si lointaine, Piala aurait d'ailleurs romantisé un tel personnage. Là, Ira Sachs pose un regard sec et lucide avec juste ce qu'il faut d'empathie et de critique. Alors cette réflexion sur les rapports de force dans un ménage à trois ne convainc pas tout le temps, notamment dans sa peinture artificielle des personnages et le manque de crédibilité de certaines séquences. Passage se voudrait moderne, mais il est aussi phagocyté par son désir de ressembler à des modèles du passé. Le talent d'Ira Sachs se retrouve néanmoins dans la manière très fluide d'enchaîner les va-et-vient des personnages avec un sens du rythme et de la scénographie, alors très romérien pour le coup. Même s'ils défendent des rôles parfois stéréotypés, les comédiens tirent leur épingle du jeu. Ben Whishaw, le Q des derniers James Bond, apporte une vraie sensibilité en incarnant Marc. Frank Rogowski, acteur qui a le vent en poupe, à l'affiche dans le récent Disco Boy d'ailleurs, est troublant et rappelle physiquement Joaquin Phoenix. Quant à Adèle Exarchopoulos, elle confirme la variété de son jeu avec des rôles de plus en plus intéressants. Voilà, je dirais que c'est un film relativement intéressant, mais quand même décevant au regard moi, des premiers films d'Ira Sachs, c'est le nom de Frankie que je n'ai pas vu. Voilà.
À noter que ce passage est au pluriel, donc Passage au pluriel de Ira Sachs est en salle depuis le 28 juin. Nous revenons cette fois-ci bien sûr Asteroid City, dernier long-métrage de Wes Anderson, présenté lors du dernier festival de Cannes, et c'est le blind test de cette émission.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Wes Anderson, j'ai compté ses 11 longs métrages en 25 ans de carrière. Il va y avoir des choses faciles, évidemment. C'est un réalisateur qui est très identifiable au niveau de l'image. On va voir si c'est le cas aussi avec le son. 5 extraits à découvrir. Premier extrait.
Tu es la créature la plus ravissante que j'ai jamais vue de toute ma vie.
Salut, sac d'os.
Bonsoir, Eliane.
Tiens, tu as encore un nouveau pins ?
Ah oui, effectivement, oui. Je suis devenu chevalier. Au Portugal, le président a donné un bal en mon honneur.
Sois pas gentil et... avec Ali, c'est mon pire ennemi. Comment tu as pu baiser avec ce PD superficiel ?
Parce que j'étais amoureuse de lui à l'époque.
Ouais, il a tellement de charisme.
Comment tu te sens ?
Je me sens assez nerveux. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Attends-moi ici, je reviens. Je veux juste te dire bonjour. Bonjour.
Bonsoir, ma belle.
J'ai dit que je voulais te dire bonjour. J'ai pas dit que j'avais envie que tu me tripotes.
Je suis ici avec ma femme, Eleanor. Voici Mandisa.
Tu es vraiment obligée de me faire subir ça.
Eh bien, c'est trouvé.
Et c'est donc La Vie Aquatique.
Oui, The Life Aquatic with Steve Zissou, je crois, en version originale. C'est un film de 2004 avec Bill Murray, qu'on entend en version française, évidemment. Jeff Goldblum, qu'on entend aussi en version française. Et Angelica Houston. Steve Zed, le chef de l'équipe océanographique Team Zissou, sait que l'expédition qu'il conduit est sans doute la dernière. Et son plus cher désir est de graver son nom dans l'histoire. Mais il n'avait peut-être pas tout planifié. 205 000 entrées en France pour ce film donc, de 2004 de Wes Anderson, puisque nous cherchons à découvrir des titres de films du réalisateur américain.
Tu en es sûr ?
Bien sûr.
Sûr de quoi ?
De ne pas être un enfant.
Plutôt oui.
Alors apprends à accepter des excuses. C'est important.
C'est un combat, la vieille américaine contre les jeunes révolutionnaires français.
Important pour qui ? Les grandes personnes.
À vous !
C'est à nous de jouer, le maire nous attend !
Je ne m'oppose pas à ce que vous couchiez avec lui, Mrs. Crimmins. Nous avons tous cette liberté. C'est un droit de l'homme fondamental. Nous nous battons pour, d'ailleurs. Ce à quoi je m'oppose, c'est... Je pense que vous êtes amoureuse de Zeffirelli. C'est déplacé. Ou pour le reste, vulgaire. Vous êtes une vieille fille.
Sois gentille. Laisse-moi ma dignité.
Et c'est trouvé.
C'est The French Dispatch ?
Oui, film de 2021, présenté aussi, hein, tout comme Asteroid City à Cannes, où il n'a rien eu, tout comme Asteroid City. The French Dispatch, film en quatre segments, met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle, qui s'appelle Ennui sur Blasé, et qui évoque le Paris des années 50-60. 450 000 entrées en France pour ce film. Troisième extrait pour ce blind test consacré à la filmographie de Wes Anderson.
Je ne t'ai pas dit quelque chose, Agatha.
Vas-y.
On a volé un tableau, il est inestimable. Peut-être 5 millions de Clubec, en fait. Je sais pas si quelqu'un s'en est rendu compte, mais s'il nous arrive quelque chose à moi et à Monsieur Gustave...
Tu voles de l'art ?
Un portrait. En tout cas, il faut faire un projet pour ta survie. Cache ça. C'est un code et il te faudra une loupe pour le lire, mais il t'indique où et comment retrouver le garçon à la pomme. N'accepte pas moins de la moitié du prix du départ.
Zéro, je suis boulangère.
Tu es
pâtissière. Je suis pas un bandit, moi, je suis pas une fourgueuse, si c'est le bon terme. Je fais pas dans les objets volés.
Je l'ai mal dit et le lui a légué.
Trouvé grâce sans doute à l'accent de cette VF.
Oui, c'est l'accent. Hein. Grand Budapest Hotel.
Sorti en 2014, le film retrace les aventures de Gustave H., l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage, Zéro Mustapha, son allié le plus fidèle. C'est le film de Wes Anderson qui a réalisé le plus grand nombre d'entrées avec 1,4 million de spectateurs en France. Quatrième extrait de ce blind test.
Je ne voudrais pas ça. Si j'étais vous. C'est plein de produits chimiques.
Comment vous le savez ?
Parce que ma belle-sœur en a bu et sa langue est devenue noire.
Oh. Vous êtes la femelle de Félix.
Je vous demande pardon.
Il paraît que vous vous êtes accouplée avec Félix, si j'ai bien compris.
Ça ne vous regarde pas.
Non, je veux pas savoir si c'est vraiment arrivé ou pas, mais je disais que je... Je vous reconnais par rapport à ce que j'ai entendu de cette rumeur.
Je crois que je vais vous dire bonne nuit.
Non, attendez. Non. Attendez. On reprend. On s'en fout de Félix. Je m'appelle Chief.
Donc c'est trouvé.
C'est L'île aux chiens.
Oui, sorti en 2018, c'est un film d'animation. En raison d'une épidémie de grippe canine, la mère de Megazaki, qui n'aime que les chats, ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville envoyés sur une île poubelle qui devient alors l'île aux chiens. Et le jeune Atari, 12 ans, parvient à se rendre sur l'île à la recherche de son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de 5 chiens, il met au jour une conspiration qui menace la ville. C'est l'Ours d'argent 2018 du meilleur réalisateur, donc au Festival de Berlin. Ça fait 400 000 entrées en France. Et pour ceux qui l'avaient peut-être entendu, c'était la voix de Vincent Lindon, en fait. C'est lui qui faisait un des personnages principaux, donc qui était un chien. Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Wes Anderson.
Vous êtes le capitaine Sharp.
C'est exact.
Bonjour, Action Sociale. J'ai placé l'enfant sous votre surveillance. Vous êtes responsable de sa sécurité. On me dit qu'il a été frappé par la foudre.
C'est la première fois que j'entends parler de ça.
C'est la vérité.
Chef de troupe Ward, je présume?
Oui, madame.
Votre réputation vous précède. Vous deux, vous êtes vraiment les plus incompétents parmi tous les gardes d'enfants que l'Action Sociale ait jamais eu le malheur de rencontrer en 27 années de carrière. Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Vous ne pouvez pas faire ça. Là-bas, ils le mangeront tout cru.
Où ça?
Ça s'appelle comment déjà?
Le refuge des jeunes mineurs.
Au refuge des jeunes mineurs. C'est un nom de prison.
Retrouvez-le, je vous prie. Et veuillez le remettre à l'Action Sociale. Rien d'autre n'est en votre pouvoir.
C'est trouvé.
C'est Moonrise Kingdom.
Oui, film de 2012. On entend, alors là, pour le coup, la voix française très identifiable de Bruce Willis et puis celle aussi d'Edward Norton. Et puis, il manquait dans cette triplette Tilda Swinton. Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l'été 65, Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de cette communauté. 508 000 entrées en France pour ce film de Wes Anderson. Ainsi s'achève donc ce blind test qui permet de jouer avec donc l'univers de Wes Anderson. On peut d'ailleurs mesurer, vu que vous avez fait un 5 sur 5, il est à peu près aussi identifiable au niveau sonore qu'au niveau visuel, le réalisateur américain.
Mais moi qui découvre certaines VF, parce que j'ai tout vu en VO en fait, au cinéma, je trouve que c'est plutôt bien doublé, ce qui est un gage de qualité depuis 20 ans en France en fait.
Bah, faut dire aussi qu'il prend souvent les mêmes acteurs. Il y a des Bill Murray, il y a des qui ont des voix très
et
identifiables.
Et puis, il faut dire une chose, c'est que Wes Anderson s'occupe parfois lui-même du doublage français. Il le supervise ou il demande à des réalisateurs connus.
Comme faisait Kubrick. Et son avantage, c'est qu'il est parisien, donc il peut aller, à mon avis, dans le studio de doublage où ça se passe.
Effectivement.
Et Chonchon, c'est le plus mignon des cochons, alors que va sortir le 5 juillet prochain Miraculous, le film que j'ai vu mais dont je vais éviter de parler. Eh bien, nous parlons de ce film d'animation indépendant, c'est donc Chonchon.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore, vous êtes la joie de mon cœur.
Ton souhait le plus cher se réalise maintenant.
C'est un petit chien.
Oh.
À présent, il est l'heure de t'offrir mon cadeau.
C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu.
Il n'y a pas que des acteurs qui semblent immortels au cinéma. Il y a aussi certaines techniques qui ne veulent les cinémas pas mourir et qui continuent à être très populaires malgré l'obsolescence de leur confection face à une industrie qui ne jure majoritairement que par la 3D. Alors après Marcel, le coquillage avec ses chaussures, il y a à peine deux semaines, qui vient des États-Unis, comme le nom de son personnage ne l'indique pas, on file aux Pays-Bas pour le tout premier film d'animation produit là-bas. Donc Chonchon, c'est le nom, enfin celui trouvé par les distributeurs français, d'un petit cochon qui va changer la vie de toute une famille. Alors Babs, une petite fille de 9 ans, reçoit reçoit un jour de la part de son grand-père un cochon nommé donc Chonchon comme cadeau. Ce n'est pas le premier obstacle qu'elle a affronté parce que, outre le fait que faire garder le cochon comme animal de compagnie est compliqué, il y a aussi le fait que le grand-père, à lui tout seul, est déjà une source de problèmes. Ayant disparu mystérieusement 20 ans plus tôt, non seulement son intrusion avec un cochon est extrêmement compliquée pour sa fille, la mère de Babs, mais en plus elle prend cela comme une provocation vu qu'elle se demande pourquoi il se préoccupe soudainement de sa famille et de sa fille. Pendant ce temps, Babs arrive tant bien que mal à convaincre ses parents de garder Chonchon à condition que le petit cochon suive une formation de chiot. Et oui, car si on veut rester à l'intérieur, il va falloir apprendre la discipline et les bonnes manières. Alors que tout semblerait rentrer dans l'ordre, avec d'un côté une mère qui s'adoucit en se disant que son père a changé, et une Babs qui ne peut plus se passer de son compagnon à quatre pattes, bien évidemment terriblement mignon, comme le titre tout sucré nous le précise, un concours historique de charcuterie est sur le point d'entamer sa 500e édition, et le premier prix va dépendre bien évidemment de la meilleure viande. Et si la sécurité de Chonchon n'était pas si assurée que cela au sein de la famille de Babs?
Ach, c'est bien, Chonchon. Chonchon, arrête!
Viens là!
Chonchon, allez, au pied! Grand concours du roi de la saucisse du siècle? Mais qui est capable de faire ça à de si gentils cochons?
Ben, et pourquoi pas un boucher charcutier?
Je suis aux côtés du boucher Smacarelli.
C'est pour ne pas retomber entre les pattes de cet affreux boucher.
Chonchon est en danger.
Voici est un avis de recherche.
Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez.
Le boucher l'a attrapé.
Les révolutions de salon provoquées par des cochons, il y avait bien longtemps que ça n'était pas arrivé sur nos écrans. Alors peut-être suite au gros bide du pourtant génial Babe 2, le cochon dans la ville de George Miller, le même papa de Mad Max, qui faisait suite au gros succès, lui, du premier Babe, le cochon qui voulait devenir berger produit par ses propres soins. Alors ici, animation oblige, on tend plus vers l'excellent Panique au village, le film d'animation belge réalisé en 2009 par Stéphane Aubier et Vincent Patard, qui utilisait idéalement la technique de la stop motion pour raconter leur histoire loufoque. C'est ici aussi le cas, car en l'état, Chonchon aurait été très probablement très compliqué à tourner dans des conditions live et qui plus est, aurait grandement perdu de sa poésie. Bon, et il est sûr que l'incontinence salissante du cochon running gag, pas forcément de très bon goût, mais qui fera à coup sûr rire tous les enfants, aurait eu franchement beaucoup moins de charme. Alors malgré la courte durée du film, la réalisatrice Masha Halberstad, une spécialiste de la stop motion de l'animation dans son pays, semble hésiter entre farce burlesque, message écologique, gag qui tâche et commentaire social. Alors faute de vraiment mettre les pieds dans le plat dans chacun des genres, elle rate un petit peu tous les effets de tous ces tropes exigeants attendus, mais bon, sans que cela ne donne un spectacle déplaisant pour autant, car l'émotion reste au rendez-vous. Alors il est juste dommage que pour un premier long métrage, l'ensemble reste oubliable malgré son potentiel, et surtout son potentiel de comédie déjantée, car le rebondissement du troisième acte, alors qui n'en est pas vraiment un si vous avez plus de 6 ans bien évidemment, fait basculer le récit dans quelque chose qui aurait pu être bien plus fou et cruel, tout en gardant un aspect tout public comme c'est le cas dans les premiers longs métrages des studios Aardman par exemple. Donc disons-le franchement, si cette histoire de cochon ne casse pas trois pattes à un canard, elle est néanmoins idéale pour amener vos petits bouts de chou en salle, car le spectacle reste très mignon et sa durée d'1h15 est très appropriée pour le jeune public qui fera de toute façon un sentiment beaucoup moins exigeant, car le film est explicitement calibré pour eux et reste une alternative intéressante au film d'animation américain autrement plus lénifiant. Je ne me remets toujours pas de Super Mario Bros. Le film qui, je pense, est une purge à la hauteur de son succès totalement indécent. C'est Roddy.
Eh oui, donc je ne parlerai pas non plus de Miraculous, donc cette série qui a été adaptée en long métrage d'animation, 1h40, alors que là, tu parles d'un film d'animation d'1h15 qui, effectivement, est destiné à un public qui flirte avec les 6 ans.
Et le Spider-Man, 2h20, quand même.
Eh oui. Bon, lui, il s'adresse quand même aussi aux jeunes
ados. Aux ados, ouais, quand même.
Alors.
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
C'était la dernière émission de la saison 2022-2023 de Cinérama. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous pourrez nous écouter dans une version estivale un peu plus détendue. Et puis sinon, bien pour les autres, on se retrouve à la rentrée. À bientôt.
Qu'est-ce que c'est?
J'ai ajouté un appendice.
Tu plaisantes?
Pas du tout.
Tu as fini mon manifeste, sans moi.
J'ai imité ton style, je pense. En plus clair, plus concis, un peu moins poétique. Rassure-toi, ce n'est pas le premier manifeste que je corrige. Impossible d'imaginer ces étudiants enflammés, naïfs, courageux à l'extrême, retourner à leur salle de cours docile.
This is Cinerama.